Thank you, Madam Chair.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je souhaite la bienvenue à tous les présents à l'occasion de cette 135e session du comité des droits de l'homme. Et pour commencer, je félicite les membres qui ont été réélus à la 39e réunion des États parties au pacte qui a eu lieu le 17 juin 2022 à New York. Félicitations chaleureuses à Madame Hélène Tigroja et à Monsieur Hernán Quesada Cabrera. Mesdames et Messieurs les membres, à l'occasion de la 34e réunion annuelle des présidents des organes conventionnels qui s'est tenue du 30 mai au 4 juin 2022 à New York, la réunion s'est concentrée sur l'examen du système des organes conventionnels conformément à la résolution 68-268 de l'Assemblée générale. On y a examiné particulièrement les recommandations contenues dans le rapport des co-facilitateurs, rapport sur le processus d'examen de l'état des organes conventionnels et du système des organes conventionnels des Nations Unies à 75-601. Les présidents se sont mis d'accord pour un calendrier prévisible d'examen des états parties dans un cycle de 8 ans pour des examens complets, couplés avec des examens de suivi entre-temps, donc associés à des examens intermédiaires pour les 8 comités qui ont des examens périodiques. Même s'il y a beaucoup de détails à définir dans le calendrier pour qu'il fonctionne, cela est un grand pas en avant pour le système des organes de traité auquel tous les États parties participent et pour lesquels tous les États parties font l'objet d'examens sur un pied d'égalité, ce qui donne un sens pratique à l'objectif d'universalité et de non-discrimination des Nations Unies. Le comité sur les disparitions forcées, qui n'a pas de rapport périodique, demandera des informations de la part des États parties tous les 2, 4 ou 8 ans, dépendant du niveau de mise en œuvre de la Convention. Le sous-comité pour la prévention de la torture, qui a un mandat chargé de visite, se rendra dans les États parties en moyenne tous les 8 ans avec un dialogue sur cycle entre, un dialogue par cycle entre les visites. Le comité des droits de l'homme a été le pionnier de ce calendrier prévisible sur 8 ans qui est maintenant accepté par les présidents de tous les 10 organes conventionnels. Cet accord phare historique va permettre à tous les États parties de tous les organes conventionnels de préparer leur dialogue avec les organes conventionnels bien à l'avance. Cela permettra de rationaliser le système, de simplifier pour tous ceux qui sont concernés et servira de base pour une attribution de ressources plus durable et viable. Un objectif que le secrétaire général a souligné au sujet des organes conventionnels et autres mécanismes des droits de l'homme dans son appel à l'action et dans son rapport appelé notre programme commun ou Common Agenda. Avec un accord officiel maintenant atteint sur cette proposition, le Haut Commissariat aux droits de l'homme peut maintenant concrétiser les détails pratiques de ce calendrier, évaluer les coûts et le présenter à l'Assemblée générale. Nous espérons que ce processus va découler sur des résultats positifs et durables pour le système des organes conventionnels. Je comprends que Madame Passartis va vous fournir un briefing complet sur le résultat de la réunion des présidents des organes conventionnels dans les jours à venir. Mesdames et Messieurs les membres, le Conseil des droits de l'homme est en train de tenir sa 50e session. J'aimerais attirer votre attention sur les 2 discussions de haut niveau de panel qui ont une pertinence particulière pour les travaux de votre comité, le Comité des droits de l'homme, qui vont toutes les 2 avoir lieu demain. La première discussion de panel de haut niveau porte sur les droits humains des personnes dans les situations vulnérables dans le contexte du changement climatique. Au cours des dernières années, le Comité des droits de l'homme a examiné les implications du changement climatique pour les droits de l'homme, pour les communications individuelles, les examens des États parties et dans son observation générale numéro 36 sur le droit à la vie émise en 2018, dans lequel le comité insiste sur la dégradation environnementale, le changement climatique, le développement non viable qui constitue les menaces les plus urgentes et graves à la capacité de permettre aux générations futures et actuelles de jouir du droit à la vie. Au-delà du droit à la vie, le changement climatique a des impacts sur bien d'autres droits garantis par le pacte. Par exemple, les États devraient garantir l'accès à l'information, la participation aux affaires publiques et l'accès à la justice. Les personnes les plus vulnérables face à l'impact du changement climatique sont souvent marginalisées, y compris à cause de discriminations historiques, actuelles et structurelles, l'exclusion également. La participation significative à tous les niveaux de la prise de décision et d'action permettra de les autonomiser en tant qu'agents du changement, d'empêcher la discrimination contre ces personnes vulnérables au changement climatique et faire de l'action pour le climat une action plus efficace. Les obligations des États seront également de plus en plus invoquées par ceux qui ont traversé les frontières à cause de l'impact du changement climatique sur leurs moyens de subsistance, à cause des catastrophes naturelles. Les avis adoptés par le Comité des droits de l'homme en 2019 au sujet d'un homme de Kiribati qui cherchait un asile en Nouvelle-Zélande ont constitué la première décision des organes conventionnels des droits de l'homme directement liée à l'impact sur les droits humains du changement climatique. Même si dans la communication spécifique, le Comité a déterminé que la Nouvelle-Zélande n'avait pas violé son droit à la vie en l'expulsant, le Comité a noté cependant que les effets du changement climatique dans les États qui accueillent les migrants peuvent exposer les individus à une violation de leurs droits en vertu des articles 6 et 7 du pacte et nécessiter l'application des obligations de non-refoulement pour les États qui renvoient les migrants ou réfugiés. L'intérêt croissant suscité par le changement climatique et les droits de l'homme peut montrer que cette question, et peut être le signal que cette question est probablement une question qui sera de plus en plus mentionnée devant les organes conventionnels, y compris devant votre comité. Le second débat au Conseil des droits de l'homme est le panel de haut niveau sur la lutter contre l'impact négatif de la désinformation et sur l'exercice des droits humains. Des informations et exercer des droits humains. En s'appuyant sur deux résolutions récentes et un rapport du rapporteur spécial sur la liberté d'expression et d'opinion, cette discussion, ce débat du Conseil des droits de l'homme sera la première occasion pour le Conseil des droits de l'homme de se concentrer sur les défis posés par la désinformation ou les fausses informations. Lorsque cela sera analysé sous l'angle politique, social, économique, du point de vue des doléances, la désinformation peut saper la confiance dans les institutions publiques, les processus publics, peut saper la confiance dans la santé publique, les processus électoraux, etc. Le fait que la désinformation se répande, soit très répandue et surtout la propagande est particulièrement néfaste à l'époque des urgences publiques. Cela peut être utilisé par les États et des acteurs soutenus par les États pour influencer les opérations exploitées, saper la liberté dans les sociétés et cela peut s'accompagner de graves violations du droit international. De même, les réponses et réactions des États face à cette désinformation ou fausses informations sont d'imposer des restrictions indues parfois à la liberté d'expression. Et dans certains cas, cela a été utilisé pour saper le travail des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. La résolution 49-21 du Conseil des droits de l'homme insiste sur le fait que lutter contre la désinformation ne devrait pas être utilisée comme prétexte pour restreindre l'exercice des droits humains et justifier la censure, y compris grâce à des lois criminalisant la désinformation trop vagues. Selon la résolution 49-21, lutter contre la désinformation du point de vue des droits humains doit permettre aux États de ne pas sponsoriser la désinformation, de ne pas mener des campagnes de désinformation, de promouvoir l'accès à des informations fiables et diversifiées, réaffirmer leur engagement pour la diversité des médias, l'indépendance, etc. Maintenant, je me tourne vers votre programme de travail pour cette session. Vous allez examiner la mise en œuvre du pacte par 6 états parties, examiner 49 communications individuelles en vertu du protocole facultatif, ainsi que de nombreuses réunions avec des parties prenantes nombreuses. Mes collègues et moi sommes impatients de vous soutenir dans votre travail et je vous souhaite